Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Nous voilà toujours dans le catéchisme de l'Église catholique et nous sommes dans cette partie du credo qui parle du Dieu créateur. Et là, nous arrivons dans notre cheminement, créateur du ciel et de la terre. Ainsi parle le credo et...
Celui de Nicée-Constantinople.
Celui de Nicée-Constantinople explicite de l'univers visible et invisible. Ce qui doit surprendre, je suppose que ça surprend un certain nombre de croyants qui le disent, ce monde invisible. Ce monde invisible qui va nous conduire à parler notamment des anges. Et il y a tout un tas d'imageries qui viennent quand on parle des anges. Il me semble important de bien situer, ces anges sont dans la démarche de salut de Dieu, sont ceux qui nous font avancer sur notre chemin du salut. C'est pas des gadgets, si je puis dire.
Oui, effectivement, quand on rentre dans une église d'inspiration baroque, on pourrait être un peu tenté de réduire les anges à des petits angelots joufflus et bien dodus qui semblent être là seulement pour décorer les différents espaces d'une église. Mais telle n'est pas du tout effectivement la pensée de l'Écriture, qui voit dans l'ange un missionnaire de Dieu, une mission qui lui est confiée pour assister les hommes, pour les conduire au salut. Et nous savons que même, d'après les pères de l'Église, qui ont beaucoup médité sur les passages comme Ézéchiel ou comme Isaïe, que les anges ont subi eux-mêmes une épreuve comme Adam et Ève, et que d'après le chapitre 12 de l'Apocalypse, une part a chuté et une autre part est restée fidèle. Et c'est cette part fidèle qui est pour nous, évidemment, l'aide que Dieu nous accorde quand on dit qu'il envoya son ange devant lui. C'est une façon de dire qu'il nous aide, lui, personnellement, Dieu, mais qu'il peut effectivement nous assister concrètement d'une aide spirituelle qui est un personnage, qui peut être notre ange gardien, mais qui peut être aussi un ange défenseur d'une nation tout entière, un archange, une puissance angélique qui vient à notre secours, sachant que ce monde visible, terrestre que nous voyons, n'est pas le seul. Nous ne sommes pas matérialistes, nous ne considérons pas seulement ce que nous voyons. Nous savons que l'âme est invisible et nous savons que pourtant elle est là. Le vent, nul ne le voit, mais on sait pourtant qu'il souffle, même s'il est matériel. Vous voyez, le fait du visible ne suffit pas à rendre les choses exhaustives. Il y a plus loin, il y a un au-delà de ce qui est de la vue. La vue ne peut percevoir qu'une petite partie du visible et la foi chrétienne a la révélation des anges, les saints, non seulement dans l'Écriture, mais les saints ont des expériences des anges. Saint Padre Pio di Pietrelcina, fêté au mois de novembre chaque année, eh bien, a vécu une enfance où son ange gardien était quelqu'un qui lui était très proche. Il dit même dans ses récits qu'il a joué, c'est quand même étonnant, avec son ange gardien. Et c'était pour lui quelque chose de si fort qu'il pensait que tout le monde bénéficiait d'un ange gardien aussi proche.
Aussi joueur que
le sien. Et alors, il a été assez surpris de tout à coup constater que il était assez unique en son cas, et ça l'a orienté évidemment vers une vocation franciscaine, capucine, et finalement sa vie a été entièrement dédiée à Dieu. Mais par rapport à ses petits amis d'enfance, il a découvert tout d'un coup que ce charisme qu'il avait de voir son ange, de pouvoir lui parler, lui était une gratification toute unique et toute personnelle.
Mais de fait... Beaucoup, je pense, ont un petit peu de difficulté à se dire un monde invisible, quelque chose qu'on ne voit pas, quel cas, comment tenir cas de ce monde invisible. Tu disais tout à l'heure, l'image du vent qu'on ne voit pas, et pourtant on voit les effets du vent, on voit les arbres qui se penchent, on voit nos vêtements, avec nos vêtements dominicains, le scapulaire qui s'envole, et pourtant on ne voit pas le vent. Alors cette image, elle ne va pas suffire forcément
à
convaincre.
Ça reste matériel, c'est
évident. Oui, ça reste matériel. Oui, oui. L'action même des anges qui sont dans ce monde invisible sur la vie de l'homme, dans la vie des hommes, n'est pas si simple que ça à trouver. Et en même temps, comme tu le disais, ce que Dieu réalise qui ne relève pas d'abord du visible, et pourtant il y a une perception que l'on aura. La foi nous fait percevoir des choses qui ne sont pas matérielles et qui pourtant sont bien réelles pour nous.
Sont bien réelles pour nous. Alors j'ai remarqué moi souvent que c'est par le biais, hélas, des adversaires de l'ange, c'est-à-dire les mauvais anges, le diable et tous ceux qui l'ont suivi, que les personnes se mettent à croire aux anges. C'est assez étonnant. Mais ayant fait, s'étant rapproché de lieux où il y a des manifestations diaboliques, eh bien à ce moment-là, il y a comme un retour bénéfique en disant, mais s'il y a des manifestations diaboliques, c'est peut-être qu'il y a bien aussi des anges qui sont bons. C'est assez frappant de voir que ceux qui voient un exorcisme, entendent parler d'exorciste ou voient l'existence dans des récits du curé d'Ars ou d'autres de manifestations diaboliques, à ce moment-là, ils se mettent à dire, ben oui, dans le fond, ils ont vécu quelque chose de tout à fait déterminant et sans doute doit-il y avoir vraiment quelque chose aussi de bénéfique et de stimulant. Et à ce moment-là, l'adhésion à l'ange gardien se fait par cette, en quelque sorte, par ce tournant de passer par l'existence d'anges déchus. Et ça, c'est aussi l'Écriture qui nous le dit, Apocalypse chapitre 12, que nous évoquions il y a un instant, qui dit clairement que il y a eu un tiers des anges qui se sont éloignés de Dieu et qui sont tombés sur la terre et qui luttent contre le projet du Fils de Dieu, le projet de constituer l'Église, cette femme qui donne naissance au Fils dans l'Apocalypse et qui représente, dans le fond, le mystère du salut.
Je trouve que dans le catéchisme, au numéro 329, cite saint Augustin, et je trouve assez intéressant, donc saint Augustin dit au sujet des anges, « Ange désigne la fonction, non pas la nature. Tu demandes comment s'appelle cette nature ? Esprit. Tu demandes la fonction ? Ange. D'après ce qu'il est, c'est un esprit. D'après ce qu'il fait, c'est un ange. » Je trouve assez intéressant de se dire, si on veut fantasmer, faire de l'imagination, là, saint Augustin dit bien, il y a une fonction et cette nature, c'est l'esprit. Et ben, je pense que la plupart des croyants, des chrétiens, ne vont pas contester qu'il y a l'esprit, l'œuvre de l'esprit. Mais certains sont vraiment dans ce que tu disais tout à l'heure, l'ange, ses fonctions, parce que ça signifie le messager, celui que Dieu envoie.
Le messager, exactement. Angelos, malar en hébreu, c'est aussi l'envoyé, c'est le roi. Et Mélarim au pluriel, les anges qui interviennent souvent dans l'Ancien Testament, mais aussi beaucoup, beaucoup dans le Nouveau Testament. Souvenons-nous de Pierre qui sort de prison après que la puissance juive l'ait incarcéré. Eh bien, il sort grâce à son ange, et tout de même assez extraordinaire. Les chaînes lui tombent, les portes s'ouvrent. Il se croit comme dans un rêve, et puis finalement, il est obligé de constater, c'est la réalité, je suis sorti de prison. Il frappe à la porte de la servante, et il dit, ça y est, c'est Pierre qui parle. C'est extraordinaire, cette action de l'ange très concrète que les pères ont connue, non seulement dans la première alliance, mais aussi dans la nouvelle alliance.
Je vois... quand on regarde la suite dans le catéchisme, alors nous allons dire que le Christ est la tête de son corps qui est l'Église.
Oui.
Et là, on voit le Christ est le centre du monde des anges, du monde angélique. Ce sont ses anges à lui.
Oui, dans Matthieu 25, 31, le texte le dit bien, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges. Et ce qualificatif possessif, ses anges, montre bien qu'il y a d'un côté les bons anges, ceux qui sont du Seigneur, et les autres qui malheureusement n'ont pas suivi la totalité de du plan de Dieu et qui se sont éloignés de lui et se sont même révoltés. Donc le Christ est tête des anges et des bons anges, il faut tout de suite préciser, de même qu'il est tête du corps tout entier de l'Église, c'est-à-dire de tous ceux qui sont sauvés. Et je pense à une parole de saint Thomas d'Aquin qui est quand même très éclairante pour bien nous situer que toute personne qui vit ici-bas est encore potentiellement en direction du Christ, mais une fois que je dirais qu'il est passé de l'au-delà, eh bien les choses sont tranchées. Le Christ est tête de tous les hommes, dit saint Thomas d'Aquin, à divers degrés. En premier lieu et principalement, il est tête de ceux qui lui sont unis dans la gloire. En second lieu, il est tête de ceux qui lui sont unis actuellement par la charité. En troisième lieu, de ceux qui lui sont unis par la foi. En quatrième lieu, de ceux qui lui sont unis en puissance, mais qui, dans les desseins de la prédestination divine, le seront un jour en acte. En cinquième lieu, enfin, de ceux qui lui sont unis en puissance et qui ne le seront jamais en acte, tels les hommes qui vivent en ce monde et qui ne sont pas prédestinés. Quant aux autres qui ont quitté cette vie, ils cessent entièrement d'être membres du Christ car ils ne sont plus en puissance de lui être unis. L'impossibilité est devenue radicale, comme les mauvais anges. Il n'y a pas de retour possible puisque c'est dans leur être même qu'ils ont, d'une certaine manière, fait cette révolte qui fait que leur être est orienté d'une manière définitive. Et celui qui, malheureusement, est dans cette situation parmi les hommes, eh bien, est aussi dans une situation irréversible.